Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 9 septembre, voilà, deuxième émission de la saison finalement. Beaucoup de choses à dire une fois de plus, les saisons qui reprennent par-ci par-là, notamment dans les sports locaux, même si ça se passe pas forcément très bien. Pour m'accompagner ce soir, Paulin à ma droite, salut Paulin.
Salut Faustin, bonsoir à tous, très heureux d'être là comme d'habitude.
Un peu moins heureux ce week-end j'imagine.
Forcément, on en reparlera de cet échec.
Évidemment, on en reparlera dans le sommaire et évidemment on développera ensuite avec moi aussi celui qui fait sa deuxième émission ce soir, c'est Paul, salut Paul.
Salut à toi aussi, très heureux d'être ici ce soir pour cette deuxième émission.
Voilà, parfait, un bon week-end sportif pour toi.
Ouais, voilà, avec l'équipe de France et malheureusement le basket aussi.
Et un peu de Vuelta aussi, me semble, ouais. De ton côté. Parfait. Ben on va démarrer par le sommaire. Voilà, des actualités locales assez banales avec nos clubs locaux qui continuent leur prépa ou finissent leur prépa ou même démarrent leur saison. Du côté de l'international, on parlera de football avec les matchs de qualification à la Coupe du Monde, notamment de l'équipe de France qui joue ce soir contre l'Islande. Les compositions sont tombées, on vous les donnera. On parlera de basket et de la désillusion de l'équipe de France. On parlera donc de la Vuelta ainsi que du top 14 qui a repris ce week-end. On va recommencer sans plus tarder les actualités locales. On va parler de basketball avec l'EAB qui après avoir fait un sans faute dans leur prépa, subit deux défaites de rang contre Tours. Leur saison démarre réellement vendredi à Chaland en Coupe de France. Pour l'UFAB, défaite 73-75 à Jambouin contre Bourges. Ça fait 0-2 pour nos Angevines lors de ce début de prépa. Elles pourront se rattraper mercredi contre Roche-Vendée. Du côté de Cholet, victoire contre Limoges 93-89, ça fait 4 victoires en 5 matchs de prépa, même si tout ne semble pas parfait. Avant ça, ils avaient remporté le match de gala à Jambouin contre le Mans sur le score de 99-90. Et dernière petite info choletaise, la chaîne qui était remise dans le vestiaire après chaque victoire la saison dernière pour le joueur ayant le meilleur plus-minus, c'est des petites images qu'on aimait bien voir sur les réseaux sociaux notamment, bah ça a été remplacé cette année par une ceinture de boxe à l'effigie du club, évidemment, à voir si elle sera beaucoup remise cette saison, on l'espère évidemment, et ça va faire des belles images une fois de plus de cohésion dans les vestiaires, ça fait toujours plaisir. Pour le SCO Hand, maintenant ça commence assez mal parce que avec deux défaites, la première assez logique en Coupe de France contre Aix-en-Provence sur le score de 39-32 et une deuxième pour la première journée de Pro League 31-26 en déplacement à Saintes, en espérant qu'ils sortiront la tête de l'eau assez rapidement pour faire mieux que les saisons précédentes et se maintenir sportivement, parce qu'on rappelle que le SCO Handball avait fini dernier de Pro League la saison dernière, mais a pu être maintenu financièrement parce que les clubs de National 1 n'ont pas les budgets pour monter en Pro League. Ça fait même deux saisons d'affilée que ça arrive au SCO Handball. On espère que cette saison, ça se passera mieux pour eux et qu'on verra du jeu un peu mieux dans la salle du Hara. On va passer sur du hockey sur glace. Les Ducs en back-to-back contre Bordeaux. Les deux équipes ont remporté un match chacun, avec d'abord Bordeaux qui s'est imposé 5-2. Puis les Ducs ont dominé les Bordelais 3-2 à l'Ice Park pour leur dernier match de prépa. La saison commence vendredi avec un déplacement à Briançon pour nos Ducs. Voilà, du côté local, rien de plus à ajouter pour vous.
Non, pas rien à signaler.
Voilà, rien à signaler.
T'as tout bien fait, parfaitement.
Merci bien. Bon, on va commencer. Je vous propose d'aller sur du football. Un peu d'équipe de France, Paul.
Eh oui, car nos Bleus se sont imposés contre l'Ukraine en Pologne vendredi soir avec une victoire 2-0 grâce à des buts de Mbappé et Olise. Les Bleus ont très bien commencé le match avec du coup le but d'Olise au bout de 11 minutes de jeu. Ensuite, ils ont douté un peu en début de seconde période avec carrément des parades de Maignan, un sauvetage sur la ligne de Konaté et un poteau qui a bien fait douter jusqu'à la délivrance d'Mbappé à la 83e minute et qui vient conclure un bon match du nos Bleus dans l'ensemble.
Ouais, c'est clair, moi j'ai pu voir le match. On a quand même eu du mal à enfoncer le clou, j'ai envie de dire, plier ce match. Il y a eu que 1-0, on s'est fait très très peur, l'Ukraine revenait très fort. Ouais, Paulin, t'as pu voir le match toi aussi?
Ouais, j'ai regardé ça et le top player, on va dire, c'est Michael Olise. Je pense que la prestation qu'il fait est assez remarquable, surtout dans ce rôle un petit peu de numéro 10 à l'ancienne, en même temps moderne, qui arrive à tout faire. Surtout que j'ai lu plusieurs choses comme quoi c'est lui qui a parcouru le plus de distance chez les Bleus. Un numéro 10, normalement, c'est tu t'attends pas à ce que ce soit celui qui parcourt le plus, mais c'est qu'en fait il décroche énormément. Ouais. Il a fait beaucoup de passes pour nos élites. Les ballons, on va dire, qu'il touchait, il les a beaucoup bonifiés et ça c'est hyper intéressant. Et je trouve que sa prestation et sa performance elles nous permettent de se dire que si on arrive à le garder dans ce rôle-là, ça peut être hyper intéressant avec des joueurs hyper rapides sur les ailes. On sait qu'il peut distribuer des ballons et en plus de ça, il est hyper bon devant le but. Il est capable de finir comme il l'a fait en inscrivant son but. C'est Barcola, je crois, qui décale. Il vient la reprendre, il marque. Enfin, c'est pareil. C'est vraiment parfait dans ce rôle-là. Il s'adapte super bien. Et puis après, on a aussi la magnifique ouverture de Tchouaméni pour Mbappé. Ouais. Vraiment, la passe est dingue. Et puis Mbappé, bah, comme on le connaît, qui finit sans trop de soucis, qui met un peu dans le vent Zabarni, la nouvelle recrue du PSG, et puis
avec un qui vient marquer
ce but complètement. Et puis en plus, c'est un peu le but, la signature d'Mbappé quand il vient tirer, qui glisse en même temps. On sait que c'est but, là, tu peux rien.
Il va falloir chercher.
Exactement.
Toi, Paulin, c'est Michael Olise, ton coup de cœur aussi sur ce match?
Ouais, tout à fait. J'ai bien aimé aussi les matchs de Tchouaméni et Koné, qui ont fait un très bon match au milieu. Tchouaméni, l'ouverture, comme l'a dit Paulin, est très belle, et surtout, il vient, comment dire, récompenser un super match parce que défensivement, il a été là quand il a fallu tenir un peu la baraque. Et du coup, je trouve intéressant, mais malgré, on a quand même les blessures de Dembélé et de Doué qui vont louper quand même quelques semaines et du coup, les débuts en Ligue des Champions du PSG qui, ouais, ça risque d'être un peu plus compliqué.
Ouais, c'est le point noir. Ils seront pas présents non plus ce soir contre l'Islande. Dembélé, on parlait de 6 à 8 semaines et Désiré Doué, c'est 3 à 4 semaines, il me semble. Donc ouais, ça va faire du mal au PSG. Voilà, Dembélé qui va manquer le classique, qui a manqué le match contre le Barça, contre l'Atalanta, contre Monaco aussi, il me semble. Donc ouais, ça va être un sacré coup dur pour potentiellement le futur Ballon d'Or, du coup. Ouais, on verra bien comment le PSG s'en sortira sans lui. Mais on va passer sur la compo de l'équipe de France de soir. Paul, je sais pas si tu l'as sous les yeux. Tu vas nous la trouver rapidement. Contre l'Islande à 20h45, le match. Vas-y, je t'en prie.
Et du coup, Maignan sera dans les cages pour commencer. Les latéraux sont Hernandez et Koundé. En centrale, la même que contre l'Ukraine, Upamecano et Konaté. Tchouaméni et Konaté au milieu. Et une attaque avec Thuram ailier gauche, Olise en 10, Barcola à droite et Mbappé en 9.
Et celle de l'Islande?
et celle de l'Islande, du coup.
Bon courage. Pas facile, ça.
C'est pas facile. Rafn Olafsson. Il est pas facile, celui-là. Olafsson, du coup, qui gardera les cages. Ensuite, les latéraux, c'est Paulsson et Eliasson. Les défenseurs centraux, c'est Léo
Je t'ai envoyé au casse-pied un peu.
Grétarsson, je crois.
Grétarsson, voilà, c'est ça.
C'est ça que tu cherches.
Ingason, avec lui. Au milieu, c'est Arnar Haraldsson, Johansen, Troersteisson.
Tu l'as vraiment pas aidé, là, pour cette deuxième émission.
Ah, c'est Anderson, un peu de bisutage.
Kvitjosen, et pour finir, Daniel Gurudson. Gurudsen, pardon.
Ouais, t'as les, je sais que de ce que j'ai lu ce matin, t'as les deux frères en pointe. C'est, ils sont de la même famille. Ouais. Et celui qu'on connaît, c'est Håkon Haraldsson, le Lillois. Honnêtement, c'est pas une équipe qui nous fait peur sur le papier. C'est d'ailleurs, il y a peu de joueurs que l'on connaît, à part justement Haraldsson, parce qu'il évolue en Ligue 1, ouais. Et qui nous avait fait mal l'année dernière au SCO, parce qu'il avait marqué, il avait fait une passe D contre nous. Mais hors ça, non, la France se doit de gagner ce match.
Oui, clairement, contre l'Islande, il y a pas photo. Donc 20h45, coup d'envoi. Est-ce que tu as d'autres choses sur les qualifs Coupe du Monde?
Ouais, j'ai quelques points quand même.
Bah, c'est parti.
Du coup, on a l'Espagne qui, lors de sa journée 5, le 4 septembre, a battu 3-0 la Bulgarie sans trop forcer. Avant, dimanche soir, détrier la Turquie 6-0. Un score assez fleuve, ouais, avec un triplé de Merino en Turquie. L'Allemagne, elle aussi, pour sa journée 5, a perdu contre la Slovaquie et s'est fait très peur, avant de se rattraper dimanche soir en gagnant 3-1 contre l'Irlande du Nord à domicile. Le Portugal a gagné 5-0 contre l'Arménie, avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo et aussi de Joao Félix samedi soir. L'Angleterre a, elle aussi, gagné 2-0 contre l'Andorre. Et les Pays-Bas ont gagné contre la Lituanie dimanche soir et avaient fait match nul le 4 septembre contre la Pologne.
Parfait, voilà des résultats un peu plus classique, mis à part l'Allemagne qui s'est fait peur, donc contre la Slovaquie, cette défaite 2-0 qui a surpris pas mal de monde. Voilà, ça me fait penser à une actu foot locale que j'avais pas donnée, c'est Imad Abdelli qui a repris l'entraînement collectif avec le SCO. Donc on espère qu'il pourra peut-être réintégrer le 11 ou au moins le banc pour les prochaines rencontres de Ligue 1 qui reprennent ce week-end. Voilà, on verra ce que ça donne. Rien de plus à ajouter sur le foot, messieurs?
Non, je pense qu'on est bien, que Paul a tout dit.
On va rester sur un peu de pelouse et on va parler de Top 14, parce que la saison de Top 14 a commencé ce week-end avec à l'affiche 6 rencontres le samedi. Au Stade Jean Bouin, le promu Montauban affrontait le Stade Français, 12e du dernier exercice et facile vainqueur 47-24. Une victoire logique pour les Parisiens. Les Tarn-et-Garonnais ont quant à eux été trop inconstants et n'ont surtout pas pu transformer véritablement les bons moments qui ont été leurs premiers pour espérer rivaliser. Des perspectives d'amélioration liées en grande partie à la défense, puisque l'attaque a fait plutôt bonne figure chez l'équipe qui retrouve l'élite après 15 ans. Dans un autre temps, un autre duel assez inégal sur le papier avait lieu, celui entre Bayonne et Perpignan. Les Bayonnais qui sortent d'une belle saison dans laquelle ils ont fini 4e, un bond de 12 places par rapport à l'exercice de 2023-2024, soit tout l'opposé de leurs adversaires du soir, Perpignan, qui eux n'étaient qu'une seule place au-dessus du dernier, Van. Un début de match nettement en faveur des joueurs de l'Aviron, mais qui s'est vite équilibré, voyant même les Catalans repasser devant à la 40e minute. Une baisse de régime qui sera de courte durée. Les Bayonnais décident, en infériorité numérique, d'accélérer à nouveau et finissent par prendre l'avantage. Score final 19-26. Autre affiche, autre dynamique, entre deux équipes du milieu de tableau l'année passée, qui nourrissent pourtant quelques ambitions. Lyon et le Racing 92 s'affrontaient à Gerland. Des Lyonnais qui avaient bien sûr envie de rebondir à domicile après cette saison dernière mitigée, ornée de moments de fulgurance médiocre avec cette série de 5 défaites d'affilée. En face, le Racing n'est pas en meilleure forme et valide cette affirmation tant l'adversité n'était pas au goût du jour du côté des Parisiens. Victoire 32-7 pour des Lyonnais qui affronteront Montauban à domicile pour le prochain match. De quoi valider. Duel plus serré entre Castres et Pau au stade Pierre Fabre. Des Palois très lucides, tranchants, qui ont su transformer tout ou presque, qui étaient opposés à des joueurs de Castres, eux aussi très solides dans la continuité du niveau affiché de la saison dernière. Lors de cette huitième place, mais à la fin, ce sont les Béarnais qui s'offrent une belle victoire 15 à 17, de quoi forger un groupe pour une saison qui s'annonce intéressante du côté de Pau. À Montpellier, la rencontre s'annonçait plus déséquilibrée entre Montpellier et Toulon, demi-finaliste l'année dernière. Bien que Montpellier soit une équipe piège, les Toulonnais, eux, réussissent souvent à les déjouer, les pièges héroletais, et n'ont pas manqué de le montrer ce week-end encore, les Montpelliérains. Ont quant à eux montré une résilience impressionnante, menée 3 à 24 à la pause. Ils auront mis 14 points aux Toulonnais en deuxième mi-temps, pas suffisant donc. Score final 17 à 24 pour Toulon. L'une des équipes les plus attendues en cette première journée, c'était bien évidemment Bordeaux-Bègles, vice-champion de France, qui affrontait La Rochelle. Le premier choc de cette saison de top 14 a bien commencé par les jaunes et noirs de La Rochelle, qui, comme leur homologue de Bordeaux, n'ont pas vraiment réussi à bien concrétiser cette domination. À la pause, c'est Bordeaux qui mène 6 à 3. Les Charentais, eux, se sabotent tout seuls à cause des fautes récurrentes dont ils sont à l'origine, couplées à l'efficacité à l'efficacité plus marquée de l'UBB. Lors du deuxième acte, les Rochelais n'auront pas réussi à créer l'exploit et s'inclinent 23 à 18. Dernière rencontre dimanche et match de gala, évidemment, entre Toulouse et Clermont. Des Clermontois qui affrontaient donc le champion de France en titre, mais qui n'ont pas baissé les yeux, bien au contraire. Si, comme annoncé, c'est Toulouse qui domine, Clermont tient le choc défensivement et s'offre même quelques points sur des actions offensives jouées à la perfection. À la pause, c'est tout de même Toulouse qui mène 14 à 17, mais les Clermontois sont clairement dans la partie et le prouvent dès le début de la seconde manche avec des intentions très offensives. Mais Toulouse affiche ce soir le niveau d'un champion, prêt à défendre sa couronne coûte que coûte, et par quelques gestes de grande classe, vient s'imposer en Auvergne 24 à 34. Voilà pour cette première journée de top 14. Je sais pas si on suit le rugby un peu autour de la table, mais est-ce qu'on voit encore une fois Toulouse vainqueur cette saison?
Ouais, c'est possible. Moi, j'aime bien Bordeaux parce que on a un envoyé spécial maintenant qui est là-bas, c'est Amaury qui était avec nous, qui sera du côté de Bordeaux cette année. Et lui, je sais que pour l'avoir croisé et en avoir parlé avec lui, il a envie d'aller un petit peu suivre davantage cette équipe de Bordeaux-Bègles.
Maintenant qu'il y a plus trop de football à Bordeaux.
Exactement. Et puis c'est là-bas où du coup tu vas avoir de l'ambiance. Il était déjà allé, il avait fait une vidéo là-dessus. Il y avait vraiment une superbe ambiance. Et il y a notamment des joueurs aussi qui sont des joueurs dont on parle beaucoup, notamment Louis Bielbarret. Donc c'est une équipe qui peut aussi tout à fait rivalisé avec Toulouse. Ouais. On verra bien ce qui se passera côté rugby, mais on a aussi les championnats du monde féminin en ce moment avec les Françaises qui ont fait une très très bonne phase de poule. Elles ont dominé toutes leurs adversaires. De mémoire, elles vont affronter l'Irlande pour la première étape des phases finales.
Et ben voilà, on suivra ça, on vous donnera le résultat la semaine prochaine du coup. On verra. Tu parlais, Louis, de l'UBB qui rivalise avec Toulouse, c'est clair, on l'a vu au fil des années. Il y a deux ans, il s'était pris une claque en finale. Et là, la saison dernière, c'était un match très serré qui allait jusqu'en prolongation. Donc ouais, clairement, il y a la place pour l'UBB d'aller chercher ce premier titre de champion de France pour eux. On va voir ce que ça va donner, on essaiera de suivre un peu cette saison de top 14. Cette année tout simplement. Voilà pour le rugby. Je propose de passer une petite pause musicale et après on verra la deuxième partie de l'émission. On parlera donc de cette désillusion de l'équipe de France à l'Eurobasket. On enchaînera aussi sur la suite de ce qui se passe à l'Eurobasket parce qu'il y a eu d'autres choses intéressantes, notamment des Finnois qui ont été plutôt fins contre les Serbes et ensuite la victoire de Carlos Alcaraz. Allez, US Open, on va s'écouter Summermania de Winter Zuko sur le 101.5 FM de Radio G.
Je suis en pirate comme Rakam, j'aurai une tista pour madame. Je veux pas un brouillant avec mes gars, donc je sais pas qui supporter à la canne. Et j'ai des flashbacks dans le crâne, je viens de loin comme Docteur Manhattan. Je fais des rêves où je perds des chicots, je fais des cauchemars où je canne. Je suis dans ma paro, j'ai la rage, j'ai du mal à tourner la page. On est passé par des camps, mais y'en a qui sont venus à la nage. Ok, fils de femme de ménage, avec des valeurs on glisse d'héritage. Non, charbonne tout l'hiver, et l'été on pamose à la plage. Ma tête elle est occupée, je les soulève à la force de mes bras. J'ai un badge rempli de cernes, projet charbonné dans le noir. Cinq ou moins j'étais à trop la rage, et je sens la rage de tous mes gars. Ils veulent pas nous aider pour mailler, on va mailler dans tous les cas. Ma tête elle est occupée, je les soulève à la force de mes bras. J'ai un badge rempli de cernes, projet charbonné dans le noir. Cinq ou moins j'étais à trop la rage, et je sens la rage de tous mes gars. Ils veulent pas nous aider pour mailler, on va mailler dans tous les cas. Je sors une plata pour un dîner, ton frère il peut même pas quand. Même si les galères continuent, garde la mentale, reste motivé. Je tape une déter, je vais à la salle. Ambiance winter pendant le carnaval. Je suis comme Eminem à l'époque. Où ça kiffe devant la caravane. Lampadaire cassé dans la ville. Chaussures déchirées, ça fait un style. Depuis que je suis petit, ça se fight. Tranquille, ça servira pour un fil. J'ai pris du poids, merci, distro kid. J'ai risqué mon avenir dystopie. Je crois qu'on n'a pas vécu assez de choses, bébé. Les souvenirs finissent trop vite. Ma tête elle est occupée, je les soulève à la force de mes bras. J'ai un badge rempli de cernes, projet charbonné dans le noir. Cinq ou moins j'étais à trop la rage, et je sens la rage de tous mes gars. Ils veulent pas nous aider pour mailler, on va mailler dans tous les cas. Ma tête elle est occupée, je les soulève à la force de mes bras. J'ai un badge rempli de cernes, projet charbonné dans le noir. Cinq ou moins j'étais à trop la rage, et je sens la rage de tous mes gars. Ils veulent pas nous aider pour mailler, on va mailler dans tous les cas.
Et voilà, c'était Summer Mania de Winter Zuko sur le 101.5 FM de Radio G, ou bien sur le site internet www.radio-g.fr. On va tout de suite enchaîner sur d'autres actus internationales et le tennis avec l'US Open qui s'est terminé ce week-end, Paulin.
Tout à fait, et j'ai envie de dire, on s'en doutait tellement leur niveau est stratosphérique depuis quelques mois maintenant, et la finale tant attendue a bel et bien eu lieu dimanche soir entre les deux meilleurs joueurs du monde. En effet, pour la troisième fois de suite, après Roland-Garros et Wimbledon, c'était sur les terrains new-yorkais de Flushing Meadows que Yannick Sinner et Carlos Alcaraz se sont affrontés dans une nouvelle bataille, donnant un peu plus naissance à sûrement une des plus grandes rivalités de l'histoire du tennis, mais aussi du sport en général, car il est désormais évident que ces deux-là continueront de se battre pour les titres du Grand Chelem dans les années à venir. Mais reparlons de cette finale qui a d'abord eu plusieurs minutes de retard, laissant un Carlos Alcaraz bien dans sa bulle, répétant ses dernières gammes avant de rentrer sur le court, contrairement à Sinner, qui tout en légèreté s'amusait avec son équipe, de quoi s'évader avant l'ultime challenge de la saison en Grand Chelem. Les joueurs, vers 20h40, finissent par entrer sur le court dans une ambiance électrique où les doutes planent dans les travées des tribunes new-yorkaises, tant l'opposition entre les deux joueurs est souvent imprévisible. Qui d'Alcaraz ou de Sinner repartira avec la couronne de numéro 1 mondial et le trophée de l'US Open? C'est la question que tout le monde se posait. Je ne sais pas, messieurs, si vous aviez un favori en tête. Moi, j'ai envie de dire que avant cette rencontre, je ne sais jamais trop me positionner. À Roland-Garros, Carlos Alcaraz avait inverser la tendance. À Wimbledon, au final, Sinner était intouchable. Ouais. Est-ce que vous aviez une préférence? Est-ce que vous pensiez que ce duel pouvait tendre d'un côté ou de l'autre, ou vous étiez comme moi et c'était 50-50?
C'était 50-50 un peu pour moi aussi. J'avais un feeling, je vais dire, qui était sûrement excellent sur Yannick Sinner. Mais ça ne reste qu'un feeling.
Non, moi j'avais plutôt la vision sur Alcaraz, parce que vu sa demi-finale contre Djoko, on avait vu la semaine dernière, on s'était dit que souvent Djokovic est plus compliqué pour Alcaraz, et voyant qu'il a quand même dominé de bout en bout, il a dominé tout le match, et puis voir qu'il l'a battu, je me suis dit que peut-être Alcaraz était enfin prêt sur dur à enfin battre Sinner et pouvoir emporter cette US Open.
Bien, Paul, t'as eu la bonne vision, parce qu'il y a un des deux joueurs qui a pas traîné pour montrer qu'il était dans son match, les deux pieds sur le court, voire peut-être même dans les nuages, tant son niveau semblait déjà sensationnel, rien que dans le premier jeu. Ce joueur, c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui s'est vu breaker l'Italien immédiatement, restant dans la continuité de sa quinzaine extraordinaire, où pour rappel, il n'avait pas perdu le moindre set. Et oui, parce que même contre Djokovic, finalement, il lui a mis 3-7 à 0. Et on a bien vu que le Serbe n'avait maintenant plus les armes pour battre ni Carlos Alcaraz, ni Yannick Sinner, à moins d'une défaillance physique d'un des deux dans un match. Je pense que c'est la fin pour Djokovic. Il pourra plus rivaliser avec avec ces deux grands champions. Ça paraît vraiment compliqué. Derrière, Carlos a complètement déroulé jusqu'à même double breaké l'Italien avant d'empocher la première manche 6-2. L'Italien n'y est pas, bien qu'il se serait imposé par son niveau de jeu contre 99% des joueurs du circuit, mais ça passe pas contre Alcaraz. Et c'est bien ça le plus fou, c'est que Sinner, il jouait pas mal, c'est juste qu'Alcaraz était à des années-lumière au-dessus, alors que Sinner, avec ce niveau de jeu-là, on l'a vu contre Félix Auger-Aliassime, il s'impose quand même 3-7-1. Et c'est d'ailleurs ce qui est incroyable et remarquable entre ces deux-là. Les deux joueurs jouent toujours à un niveau fantastique, cependant, il y en a un habité par les dieux du tennis, rendant l'autre complètement impuissant. Mais dans un match, il y a souvent une baisse de régime, et le deuxième set a permis à Sinner de recoller, car Carlito n'était plus possédé, il a davantage commis des fautes directes et est redevenu tout simplement humain. Au bout de 2-7 donc, les joueurs faisaient jeu égal, mais c'est après que la tempête espagnole s'est réveillée, la machine s'est vite remise en route et il a complètement écœuré l'Italien lors du troisième set. D'une justesse étourdissante, il a fini par s'imposer 6-1, mettant quasiment tout le monde d'accord sur l'issue du match tant l'Espagnol était sur une autre planète, sûrement la planète Mars pour le Murcien. Yannick Sinner se retrouve dos au mur et une impression de frustration m'envahit personnellement devant ma télé tant les deux n'arrivent pas à être sur une autre planète en même temps. Il y en a toujours un des deux qui prend l'ascendant, sauf à Roland où le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais à Wimbledon c'était bien Sinner qui était intouchable. Enfin, lors du quatrième set, Sinner aura tenté de rivaliser en vain et malgré les deux balles de match sauvées à la fin, de quoi nous donner de l'espoir pour que ce match continue et nous rappeler les trois balles de match sauvées par Carlito à Roland avant de renverser le match. Cette fois-ci, la marche était bien trop haute pour Sinner et Carlito s'en est allé décrocher son sixième titre du Grand Chelem. Mais quelle conclusion faire finalement à l'issue de ce dernier Grand Chelem de la saison? Eh ben déjà, nos deux stars ont fait jeu égal, deux titres partout au Grand Chelem, montrant bien que les deux plus forts, bah c'est eux. Mais attention, car Carlos a montré un tel niveau de jeu sur le tournoi qu'il a semblé vraiment intouchable, et c'est lui-même qui l'a exprimé aux médias. Il a dit que c'était le meilleur tournoi de sa carrière, il s'est jamais senti aussi fort, et pour preuve, il a perdu qu'un set, le deuxième set face à Sinner, sinon il a vraiment déroulé contre tout le monde. Dans les premiers tours, il a su s'adapter, jouer son jeu sans forcer, et contre Sinner, on a vu qu'il a passé un cap réel, parce qu'il sait l'opposition, il sait le joueur qu'il a en face de lui, et il a tout simplement été stratosphérique. Donc, si constance il y a, on va dire, pour Carlos Alcaraz dans ce niveau qu'il a montré, alors on a hâte de les retrouver à l'Open d'Australie, là où Sinner est tenant du titre et où Alcaraz n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale. À voir donc si Alcaraz voudra vaincre ses démons et encore remporter un nouveau grand chelem sur dur. Je pense que on sait très bien que cette rivalité elle va continuer et elle va nous tenir en haleine pour les prochaines années. En tout cas, c'est un peu la question en ce moment dans le monde du tennis masculin. Qui va arriver, qui va pouvoir élever son niveau de jeu suffisamment pour venir rivaliser avec ces deux joueurs-là. J'ai l'impression que Djokovic, on va commencer à tourner la page parce qu'il se fait vieux et que sa carrière, malheureusement, la fin de sa carrière est proche.
Pente descendante, ouais, clairement.
Mais après, on en parlait dans des émissions, on parlait de Jack Draper. Au final, une blessure l'a fait abandonner à l'US Open. Il finit aussi la saison, là, il met un terme à sa saison. Est-ce que lui, il peut faire comme Andy Murray avait fait à l'époque du Big Three? Est-ce que ça peut être un petit peu la pièce qui va venir s'installer dans ce duo? Qu'en sera-t-il de Ben Shelton qui avait montré un super bon niveau? Lui aussi, il sort sur blessure contre Manarino. Il y a des joueurs qui montrent des choses, mais quand on voit le niveau de jeu de Sinner et Alcaraz, on se dit que bah ça paraît pour l'instant inatteignable.
C'est clair, ouais, on a clairement ce duel qui s'affiche pour de longues années. Comme tu disais, des petites pièces, des petits Musetti, des petits Bubli qui des fois arrivent à faire douter un peu les deux géants. Mais rien de concret, rien qui va. On ne sent pas un joueur capable d'aller chercher un grand chelem comme ça. Je sais pas, c'est vraiment cette sensation de dominance de Alcaraz et de Sinner au-dessus de tout le monde à vraiment des années-lumière.
Complètement.
Faudra voir sur l'Open d'Australie, c'est là que c'est le seul tournoi dans lequel on a vu une défaillance de la part d'un des deux ne pas aller en finale et à voir si ça continue les années prochaines plutôt. Mais moi je les sens vraiment invincibles et au-dessus de tout le monde.
Mais c'est ça, et à voir s'il n'y a pas une nouvelle pépite du tennis qui va faire ses preuves et qui va arriver sur la scène du tennis mondial. Mais en tout cas, nous on le dit parce qu'on le pense, mais quand déjà des joueurs comme les Mats Wilander, enfin les joueurs légendaires du tennis, je pense aussi à Patrick Mouratoglou qui a été coach de Serena Williams, qui est coach actuellement de Naomi Osaka, c'est eux ils ont le droit de parler, et ça veut dire que quand ils parlent, c'est il y a une certaine légitimité dans ce qu'ils disent, et eux-mêmes le disent que le niveau de jeu est stratosphérique et que il y a personne dans le circuit qui arrive à ne serait-ce qu'aux genoux des deux joueurs. Donc forcément, on en est même à se demander si s'ils sont plus forts finalement que Roger Federer, que Rafael Nadal, que Novak à leur prime, alors que eux ils ont eu une carrière époustouflante, et là il y a quasiment aussi des records de précocité pour Alcaraz qui a seulement 22 ans ou 23 ans, je sais plus, mais c'est hyper jeune, je crois qu'il a 22 ans encore. Il a déjà 6 grands chelems. Enfin, il l'a fait avant Rafael Nadal, qui les a aussi eu à 22 ans, mais il l'a fait avant par rapport à l'âge en termes de mois. Donc là, à part si vraiment il y a un joueur qui vient se révéler ou qui justement avec ses rivalités arrive à hausser son niveau de jeu, comme avait pu le faire par exemple un Novak Djokovic à l'époque, ou un Andy Murray, pour venir rivaliser avec ces joueurs-là. Bah, on a du mal à se dire comment est-ce qu'on va les stopper, quoi. On est parti pour quoi? Ils vont chacun finir leur carrière avec 30 grands chelems. Je sais pas, mais ça, je trouve ça assez dingue.
C'est jamais, hein.
Bah, c'est fou quand même, parce que, bah, tu te dis que là, maintenant, t'espères un troisième monstre, parce que, bah, quand tu vois le circuit actuellement, bah, il y en a aucun qui est au niveau. Enfin, quand tu vois le troisième, c'est Zverev. Zverev, il fait quand même un US Open compliqué.
Ridicule, même.
Même le Wimbledon, c'est compliqué aussi. Et même Roland Garros, j'ai envie de te dire, cette année, Zverev, il est pas très très bon. Derrière,
il fait une saison horrible.
Fritz, il est régulier, mais derrière, il est pas non plus excellent quand il faut passer les demi-finales et en finale. Et derrière, bah, les autres, bah, c'est pareil. C'est, bah, comme tu l'as dit, Draper, bah, il sort sur blessure. Shelton aussi. C'est des joueurs qui sont jeunes, qui ont un faux potentiel, mais est-ce qu'ils arriveront au même niveau que, bah, les deux mutants qu'on a actuellement? Bah, ça va être compliqué, hein.
Ouais, c'est sûr.
Moi, je pense, on va voir dans les prochaines années, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont sortir et peut-être qu'ils viendront les concurrencer comme l'a fait, bah, du coup, comme tu l'as dit, Murray, Djoko, même les Del Potro, Wawrinka, pour venir gêner un minimum quand même,
c'est grands joueurs. Oui, Wawrinka, c'est vrai qu'il a réussi quand même à choper 3 grands chelems dans la période monumentale des meilleurs joueurs du monde entre les Federer, les Nadal et les Djoko. Je pense qu'on y aura le droit. Enfin, ce serait fou et étonnant pendant les 10 prochaines années, ce soit Alcaraz, Sinner qui se partagent. Il y a un moment donné, il y en aura un qui aura forcément une défaillance, que ce soit physique, mental, etc. Enfin, ça reste une longue carrière. Ou alors, bah, on serait vraiment sur quelque chose d'historique et ce serait aussi fou à vivre. Mais oui, il y a des joueurs. On peut penser aussi à Arthur Fils, qui est quand même assez prometteur, et c'est des joueurs qu'on déjà pu, Arthur Fils, il a déjà pu embêter Alcaraz, mais jamais sur un tournoi du Grand Chelem. Mais on sait que les tournois ATP 500, Masters 1000, et ben les joueurs comme ça, c'est pas pareil dans leur tête. Un Sinner, il a perdu contre Bublik à Halle un ATP 500 parce qu'il, en vrai, il joue pas comme il joue un Grand Chelem. C'est pas pareil. En fait, c'est eux, le goal dans le tennis, c'est de gagner le plus de Grand Chelem possible. C'est pour ça qu'on verra comment ça se passe pour plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très tentant de se dire qu'il pourrait tout gagner et que, bah, en tout cas, moi, je le vois comme une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport en général,
qui peut
complètement grandir et bâtir sa légende, quoi.
Et ça va dans cette recherche qu'on avait un peu ces dernières années. On l'a clairement trouvé, justement, de la relève du tennis, de la relève du Big Three, qui est clairement arrivée, qui a mis quand même vachement de temps à se dessiner. On avait un peu justement Roger Federer sur la descente, après c'était Rafael Nadal, maintenant c'est Novak Djokovic, et c'est assez récent finalement que Alcaraz et Sinner pointent le bout de leur nez pour montrer ce duel intense en finale des Grands Chelems. Sinon, on a un peu dormi ces dernières années, je trouve, quand même sur le tennis mondial, et moi ça me fait vraiment plaisir de revoir une telle rivalité entre deux tennismen.
Oui, complètement. Et puis pour finir, chez les femmes, il y a aussi une autre personne, une autre joueuse qui domine aussi les débats depuis pas mal d'années maintenant, c'est Arina Sabalenka, qui s'est imposée en finale contre Amanda Anisimova et qui, en tant que numéro 1 mondial, et ben elle a assumé son statut, clairement. Elle est allée gagner cet US Open-là après sa défaillance à Roland, notamment contre Coco Gauff. Moi, je trouve que c'est pareil, elle n'avait pas fait une bonne performance non plus à Wimbledon, c'est Swiatek qui avait gagné. Là, Sabalenka sur dur, on sait que c'est sa surface, elle commence à empocher pas mal de grands chelems. C'est pareil, c'est vrai que on a ce sentiment que chez les femmes c'est un peu plus ouvert et que on peut avoir plus de surprises, mais une Sabalenka en forme, qui a confiance en son jeu et qui pète pas des câbles comme on peut le voir des fois, quand elle arrive à rester, à maintenir son jeu, c'est vrai qu'elle a quand même une puissance de frappe supérieure aux autres joueuses du circuit. Et quand elle est dans son match, c'est aussi difficile d'aller la chercher. Mais ça reste, voilà, c'est pas comparable avec les hommes, parce qu'on sent quand même que Sabalenka, elle est atteignable pour certaines joueuses du circuit. Swiatek, Coco Gauff, Anisimova qui monte en puissance, qui est très jeune. Il y a du monde. Et Naomi Osaka, par exemple, qui revient très bien. Enfin, on sent que ça peut plus varier que chez les hommes. On se demande vraiment ce qui se passera, mais on pourra en rediscuter plus tard. Et de toute façon, on a hâte de suivre la saison prochaine et les prochains Grand Chelem.
Exactement. Qui détrônera Carlos Alcaraz et Yannick Sinner? Réponse l'année prochaine, a priori, dans les prochains tournois du Grand Chelem. On parlait de Carlos Alcaraz. On va rester en Espagne. Tour d'Espagne. C'est parti, Paul.
Eh ben oui, car aujourd'hui, on a eu le droit à la victoire de Egan Bernal au sprint devant Mikel Landa à Castro de Hervilliers. Une arrivée qui a malheureusement été écourtée de 8 km due à une manifestation pro-Palestine. Ça avait déjà été le cas mercredi dernier à Bilbao lors de l'étape 11, mais il n'y a pas eu de vainqueur lors de cette étape. Cette fois-ci, les organisateurs ont pu prendre l'avance et mettre 8 km avant l'arrivée. Bon, malheureusement, c'est quand même déjà la deuxième fois que il y a des manifestations, et ça commence à faire un peu beaucoup quand même, parce que déjà qu'il y a eu des problèmes, des coureurs qui sont tombés à cause de ces manifestations. On commence à se poser quand même quelques questions sur la suite de cette Volta. Mais derrière, quand même, Vingegaard continue à être le meilleur, avec 48 secondes d'avance sur Joao Almeida au classement du maillot rouge et 2 minutes 38 sur Tom Pidcock. Clairement, pour l'instant, c'est quand même les deux plus grands qui sont les deux premiers. Mais on espère quand même que Joao Almeida continuera un peu à titiller Vingegaard pour avoir un peu de suspense lors de ce sprint final pour la course au maillot rouge.
Et pour toi, il y a la place pour Almeida?
Bah, il y a des étapes qui vont arriver, qui vont être intéressantes pour lui, mais je pense quand même que Vingegaard, comme il l'a montré, bah, déjà dans l'Angliru, il a pas réussi à le décrocher. Il a montré quand même qu'il était peut-être le plus fort et qu'il va remporter cette Volta.
Ok, bah 48 secondes, c'est le temps que de rattraper Almeida. On verra, il reste combien d'étapes à la Volta?
Là, du coup, il reste 5 étapes.
5 étapes pour rattraper 48 secondes et ne pas en prendre plus. C'est l'objectif de Joao Almeida sur cette fin de Vuelta. On suivra évidemment ces dernières étapes dans Génération Sport. On va enchaîner sur le basket. Là, ce sera un peu moins marrant, un peu plus triste. Et je te laisse y aller, Paul.
Eh ben oui, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas sur un des plus gros échecs de ces dernières années pour notre équipe de France? La France s'est inclinée face à la Géorgie en 8e de finale de cet Eurobasket, montrant une certaine impuissance dans le dernier quart-temps et une adresse extérieure complètement horrible. Les Bleus ont envoyé un terrible 6 sur 36 à 3 points, et dans un sport où le fait de rentrer le ballon dans le cercle te permet de gagner, forcément, ça aide pas. Les Géorgiens ont montré tout simplement plus d'envie, plus d'agressivité tout au long du match, et Tornike Changelia, le joueur qui évoluait à Bologne aux côtés d'Isaiah Cordinier, a été tout simplement monstrueux, et nul doute qu'il risque de faire parler de lui en Euroleague avec le Barça qu'il vient tout juste de rejoindre. Mais on peut se demander donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez nos Bleus. Et bien déjà, ils se sont obstinés avec le tir à 3 points, le tir extérieur. On peut pas le nier, il y avait des shoots ouverts hein, comme on en discutait. Évidemment, c'est des shoots qui doivent mettre. C'est des shoots où t'as pas de défenseur, t'as même le temps de poser un dribble et de prendre ton tir que t'es pas contesté. Rater ces tirs-là, c'est trop compliqué. Quand l'équipe d'en face fait un 10 sur 18 à 3 points avec des shoots, des fois pour le coup très contestés, enfin, c'est vrai que d'un côté, il y a la Géorgie qui était sur une autre planète et qui a joué.
Le contraste était énorme.
C'est ça. La Géorgie a joué le basket parfait et sûrement le meilleur match de son tournoi avec celui face à l'Espagne. Et la France, de son côté, s'est obstinée à tirer à l'extérieur, et on a senti en fait un manque de solution. Et de la part des joueurs et de la part du staff aussi. C'est vrai que on a vu Freddy Fautou qui a tenté de lancer Timothée Luau Cabarro, qui avait pas joué de la première mi-temps. Essaye de le lancer dans le troisième quart-temps. Résultat, il a 2 tirs ouverts à 3 points, ça le met pas en confiance, il fait 0 sur 2. Il a apporté un peu d'impact en défense, ce qui est positif, mais j'ai vraiment cette impression aussi que peut-être qu'on n'a pas utilisé toutes les solutions qu'on avait. Je pense à Nadir Ifi. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vois l'adresse à 3 points, s'il y a un joueur quand même qui a un shoot à 3 points
c'est pour ça qu'il est
quand
là.
Même fiable, c'est quand même Nadir Ifi. Je veux dire, on parle d'une adaptation défensive de la Géorgie où on a vu, en deuxième mi-temps, ils ont compris que nos Français mettaient rien dedans. Et la Géorgie, ils ont fait quoi? Ils ont fermé la raquette. Donc, au final, il y a un joueur qui a fait ce qu'il a pu, on va dire, c'est Sylvain Francisco. Il a tenté d'aller agresser, d'être agressif vers le panier et ressortir les ballons. Et c'est vrai qu'il les a ressortis sur Zachary Zaché, sur Bilal Koulibaly, sur Timothée Luwawu-Cabarro. Malheureusement, les trois points ne sont pas rentrés. Un joueur comme Nadir Ifi, peut-être qu'avec lui, ce serait entré, j'ai envie de dire. Moi, enfin en tout cas, de ce que je retiens en termes de joueur positif sur la rencontre, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est Mam Jeyte qui a été dans son rôle, qui a fait son match, Sylvain Francisco parce qu'il a tenté, Elio Kobo qui peut-être est celui qui ressort le plus dans la rencontre parce que, alors c'est pareil, forcément, bah, l'adresse des fois tu peux pas tout mettre, mais par contre, une agressivité vers le panier, il lâchait les ballons au bon moment, mais c'est vrai que moi je reste assez déçu de la prestation de Zachary Risaché, Bilal Koulibaly. Alors, on le justifie par quoi? Forcément par un manque d'expérience, parce que bah c'est vrai qu'ils sont jeunes et que premier match comme ça, en tout cas pour Zachary Risaché en phase finale, Bilal Koulibaly avait connu les JO mais avait eu peu de temps de jeu. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour eux et forcément ça va les forger. Hein, ce genre d'échec, ça va les forger pour revenir plus fort. Et c'est vrai que c'est dommage, mais moi il y a quand même le capitaine, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, en tout cas de ce que je lis, j'ai l'impression qu'il passe un peu à travers les mailles du filet parce qu'il a fait un très gros match face à la Pologne. Mais si on regarde le tournoi de Gershon Yabusele dans son ensemble,
c'est vrai,
en fait, si t'enlèves le match face à la Pologne,
c'est moyen.
C'est pas forcément un tournoi extraordinaire. Et la prestation qu'il fait face à la Géorgie, il est très fort dans le premier quart-temps, en deuxième quart-temps, il met 12 points à la mi-temps. Et il finit à 12 points le match. Pourquoi? Parce que il y a le problème de faute. Il est à 3 fautes rapidement, donc il joue peu. Il joue quand même 30 minutes sur 40, donc il joue quand même. Il fait son match, mais à un moment donné, il est reposé. Mais l'impact qu'il donne sur la fin du match et dans le troisième quart-temps, bah il y en a pas en fait. Moi, je te disais, j'ai vraiment cette image de Gershon balle en main, qui au lieu d'avoir les appuis face au cercle, se retourne vers son coéquipier, vers le meneur, vers Francisco Elio Kobo pour tenter un main à main, mais peu de mouvement en fait. On a senti cette équipe de France sans solution, avec peu de mouvement, alors que la Géorgie derrière, ça jouait en transition, ça prenait des tirs dès qu'il y avait des tirs ouverts ou même contestés. En fait, il y avait la confiance que nous on n'avait pas, et la confiance ça joue beaucoup au basket, toi-même tu le sais forcément, quand t'as la confiance et que tu sais que t'as moyen, surtout pour la Géorgie, ils se disaient dans leur tête qu'ils étaient en train de faire quand même un sacré exploit, et on n'est pas si loin dans le match, on fait un mauvais match mais il reste 5 minutes dans le dernier quart-temps et on est à moins 2 ou on est quasiment à égalité quoi. Donc après c'est ça, c'est la précipitation dans le fait de vouloir revenir. On a essayé mais ça a tout simplement pas fonctionné. Je sais pas toi ce que t'en as pensé du match et de la compétition en général des Bleus, mais c'est vrai qu'il y a des points noirs, bon il y a des points positifs mais on peut pas tout garder quoi.
Ouais, bah c'est clair, sur ce match, on a tous été déçus par l'adresse. J'avoue ne pas être un grand fan de Nadir Ifi en équipe de France, mais sur ce match-là, c'est vraiment là où fallait le lancer, là où fallait le tenter, le Nadir Ifi, parce qu'on avait besoin d'adresse, on avait besoin d'agressivité, on avait besoin de ce grain de folie que lui apporte le plus, en tout cas dans cette équipe de France. Dans les autres matchs, j'aurais été moins fan d'un Nadir Ifi qui est souvent ciblé par les défenses et qui a réellement du mal en défense et qui encaisse beaucoup de points. Mais sur ce match-là, c'était du côté offensif qu'on a pêché. Même si du côté défensif, encaisser 80 points contre la Géorgie, c'est inacceptable aussi.
Complètement.
On se vendait au début du tournoi, après les matchs de prépa, une équipe de France hyper défensive malgré un coach très offensif. Et au final, sur ce match-là, ça n'a pas fonctionné. Et surtout le tournoi, on a aussi eu ce problème de faute. C'était contre Israël, il me semble, on a eu des fautes très rapidement. Pareil contre la Slovénie. Toujours dans la pénalité, toujours à encaisser beaucoup de lancers francs, à offrir des points. Alors que nous, sur lancers francs, on n'était pas non plus hyper adroit. Un autre point noir de cette équipe de France, c'est vraiment le tir extérieur. Et pourtant on manque pas de joueurs qui savent en mettre des tirs extérieurs, donc je sais pas ce qui s'est passé, quoique on en manque un peu en fait de joueurs qui sont vraiment des shooters purs. À part Nadir Ifi, on n'avait pas ce sniper que d'autres équipes ont. Donc ouais, assez déçu quand même cette équipe de France, mais des choses prometteuses. On a aussi été privé de Alexandre Sarr, de Mathieu Strazel au début, qui ont pu bouleverser l'équipe. Alexandre Sarr à l'intérieur, justement, qui t'apporte aussi ce moyen de spacing, qui peut aller jouer au-delà de la ligne des trois points en attaque, qui peut mettre ses trois points aussi, parce que même Jaïté et Dylan Hunter n'ont plus de mal à faire tout de même. Et puis ouais, on manquait de joueurs aussi. On manque évidemment un Victor Wembanyama. On manque
Evan Fournier. C'est lui qui aurait été capable d'allumer la lumière et de mettre d'allumer sa flamme. Et puis comme il avait fait là le shoot qu'il met exceptionnel contre le Canada au JO. Tu manques de ce grain de folie là. C'est vrai que Evan Fournier c'est un peu en tout cas en termes de shooter là on parle sur quand même d'un sacré joueur. Un Evan Fournier nous manquait, un Victor Wembanyama forcément. Évidemment que c'est pas la même compétition si on l'a aussi, parce que les joueurs avec lesquels on est parti au secteur intérieur, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions. Moi, au final, je suis très content de ce qu'a proposé MJT. Jaylen Nord, c'est vrai que, en fait, quand tu regardes son tournoi, tu te dis, mais, il n'y a pas grand chose à redire. C'est vrai que c'est assez positif, c'est très propre, en fait. Il fait pas forcément, c'est pas le joueur qui va prendre un risque et tout, mais moi, ce que j'ai adoré aussi, et on l'a vu un petit peu le match face à la Géorgie, c'est, il y avait toujours une bonne connexion entre nos intérieurs, que ce soit MJT qui lâchait les ballons quand ça coupait ligne de fond, que ce soit Jaylen Nord le faisait ou Yabusele, il se trouvait assez bien et ça j'ai bien aimé. Yabusele l'a fait aussi certaines fois, il a fait une superbe passe dans le dos pour MJT. Enfin, la connexion à un moment donné m'a marqué. Je me suis dit purée, c'est dommage qu'on joue pas, qu'on continue pas à jouer là-dessus.
Même Elie Okobo est très bon sur les pick and roll.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus lui, alors c'est l'avantage avec un joueur comme ça, c'est que il peut autant la donner au pivot s'il voit qu'il y a l'opportunité de faire la passe, autant il peut se créer son shoot.
Tout à fait.
Ou même, enfin s'arrêter, faire un stop tir ou aller chercher le lay-up et puis la faute quoi. Donc c'est vrai que il y a des points positifs, mais après on peut parler aussi des joueurs. Enfin moi en tout cas il y a un joueur point noir qui a pas réussi à se mettre dedans à aucun moment, c'était Théo Malédon qui est quand même resté dans le 5 toute la compétition sans changement, alors que il a pas réussi à se mettre dedans. Moi c'est un joueur que j'adore, sa saison avec l'ASVEL elle est folle d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est qui part au Real Madrid, c'est parce qu'il fait une saison de fou et on n'a pas vraiment réussi à retrouver son niveau qu'il avait à l'ASVEL avec l'équipe de France. C'est dommage parce que c'est un garçon qui a plein de talent, mais rien que sa réussite à 3 points, c'était pas ça, les prises de décision. Et puis je pense que ça rentre dans ta tête aussi à un moment donné, quand ta compétition elle est ratée comme ça, tu dois te poser trop de questions et là on peut se demander Freddy Fautou t'adaptes pas quoi.
C'est un autre point là.
Et oui.
Le 5 est resté le même de A à Z
avec Cordinier aussi, c'est pareil.
Cordinier qui a pas fait la compétition
qu'on attendait.
Et ouais c'est ça, le fait de ne pas changer son 5 majeur de A à Z, de compter que sur son banc, en général, il me semble qu'il y avait vraiment pas un joueur qui commençait commençait le match et finissait le match
complètement.
Ouais. Même j'ai été là sur le dernier match, je sais plus si c'était Jaylen Nord ou lui qui le finissait.
C'est sûrement le MAM, mais parce que pour le coup, il y a pas grand-chose à redire de MAM JT.
C'est bien le seul. Après, Bilal Koulibaly finissait rarement les matchs, il ne coordonnait jamais, Théo Malédon jamais, ouais. Garchon finissait les matchs, mais c'est tout. Et puis c'était pas le 5 nous empêchait de nous lancer vraiment dans ce match. Il fallait attendre les premières rotations pour toujours voir un écart, pour voir un sursaut d'orgueil, et c'est quelque chose qui est quand même problématique. Certes, ça a bien marché. Voilà, quand tu vois Sylvain Francisco qui te sort un carton contre la Slovénie, Gershon, qui est dans le 5 du coup, mais ça marche pas. Mais faut attendre la sortie de banc pour voir un joueur exploser une défense. C'est problématique, je trouve, un 5 ne fonctionne pas à ce point. Fallait faire des changements plus tôt, à mon sens.
Oui, c'est sûr. Puis, ce qui fait tâche, je trouve, dans la globalité de la compétition, c'est que, si on regarde le groupe qu'on avait, on avait le groupe le plus facile et de loin. Oui. Et, en fait, on joue contre qui? On joue contre la Belgique. Évidemment qu'on va gagner contre la Belgique. On joue contre l'Islande. On va gagner contre l'Islande. Les deux matchs compliqués, Israël, c'est vrai que c'était pas forcément une équipe facile. Bon, le père, d'accord, c'est une faute quand même dans un sens, mais Israël n'était pas une équipe ridicule. Derrière, on arrive à battre la Slovénie et la Pologne, qui sont, pour le coup, deux belles équipes de basket. Mais on finit premier du groupe. C'est quand même compliqué de perdre face à la Géorgie directement en huitième de finale. Ça fait tâche, surtout quand tu vois les autres groupes qu'il y avait, où c'était vraiment où il y avait des sacrés morceaux quoi. Je veux dire, si on s'était tapé la Lettonie, la Lituanie, la Grèce, l'Italie, enfin je parle de ces nations là, mais ça aurait été quoi, je veux dire, est-ce qu'on n'aurait pas fait comme l'Espagne à pas se qualifier? Je sais pas, mais bon dans tous les cas on va pas en parler non plus 30 ans. C'est vrai que on sait que on n'avait pas tous nos joueurs pour la Coupe du Monde 2027 et les JO de 2028, on aura forcément notre équipe au complet, et on a pas mal de joueurs aussi là dans les draftés dont on a longtemps parlé, les Noah Penda, Noah Essengue, Nolan Traoré, etc., qui vont arriver, et peut-être qu'ils auront aussi leur place en équipe de France. Donc on verra bien. En tout cas, c'est sûr qu'on a des, on a de l'espoir, on va dire, dans nos Français.
Faut laisser le temps. Nouveau staff, nouvelle équipe. On va voir ce que ça va donner sur la suite des compétitions internationales pour notre équipe de France. On espère évidemment que la prise d'expérience ne durera pas trop longtemps. Au moins, je pense la perf la plus attendue sera pour les JO, aller retaper, j'imagine, Team USA chez eux en finale. Ce serait la plus belle des victoires. Mais on n'y a pas encore. Il faudra attendre trois belles années au moins. Bah, c'est sûr même. pour voir ça. Mais ouais, en tout cas, sur le reste de la compétition, on avait aussi des choses intéressantes.
Ah, il y avait des choses pas mal, ouais.
On va commencer par le plus gros, je pense. On a vu l'upset du coup de la Géorgie contre la France, mais peut-être encore plus gros, c'est la
encore
Finlande.
Plus gros, ouais, c'est sûr.
La Finlande qui s'est imposée contre la Serbie, qui était pour beaucoup le favori de cette compétition. La Serbie, évidemment, du pas MVP en titre, mais du triple MVP quand même, Nikola Jokic, qui s'est donc fait sortir par la Finlande de Lauri Markkanen. Ouais. J'en avais un peu parlé la semaine dernière de ces Finlandais, de ces Finnois qui étaient bons, mais j'avoue que on avait parlé de ça avant le tirage des huitièmes et tu m'avais dit Finlande Serbie en huitième. Merci la Finlande, mais la Serbie passe en quart. Et finalement non. Ouais. Ouais, je sais pas ce que tu penses toi de cette équipe de la Finlande qui est exceptionnelle. Et jusqu'où est-ce qu'ils vont aller?
Bah franchement j'adore et c'est vrai que. Que t'en parlais dans la compétition, ils faisaient leur compète, mais là c'est vrai que franchement j'ai vraiment adoré leur match face à la Serbie. Ils se sont pas du tout laissés déborder par les Serbes et en fait l'impact défensif qu'ils ont mis offensivement, bon alors j'ai plus le nom du meneur, mais par contre le Steph Curry finnois quoi, à la fin il les a tués quoi, franchement génial. Bon, Lauri Markkanen on le présente plus, c'est des joueurs qu'on connaît, mais il y a un effectif, il y a Yantunen qui jouait au Paris Basket aussi cette saison, que j'ai pas mal suivi quand il est du côté de Paris, et c'est vrai que c'est un gros joueur et il défend vraiment fort, mais de là à sortir les Serbes, bon forcément on en avait parlé, ils ont perdu Bogdan Bogdanovic, je pense que c'est quand même une grosse perte pour les Serbes, mais même sans ça, voilà, tout le monde les voyait encore favoris. Bon, voilà, je pense qu'il y a l'Allemagne, pour moi, j'en ai pas mal parlé, qui était quand même peut-être au-dessus avec l'absence de la perte de Bogdan Bogdanovic, mais bravo à la Finlande pour l'exploit. Et c'est vrai que ce qui est cool, en tout cas, maintenant, bon, la France est éliminée, donc on peut se dire, il va y avoir un duel entre la Finlande et la Géorgie en quart de finale, et il y a une de ces deux équipes qui va créer un peu l'exploit et l'histoire de son pays en intégrant les demi-finales de l'Eurobasket. Pourquoi pas plus? Bon, derrière, il y a des chances que ce soit l'Allemagne ou la Slovénie. La Slovénie, d'ailleurs, pourquoi pas? Parce qu'on peut quand même parler du show Luka Doncic face à l'Italie. Parce qu'après le match de nos Français, il y a eu le match donc entre l'Italie et la Slovénie. Et là, on a vu un autre alien sur le terrain. Ça veut dire que j'ai rarement vu ça. Un joueur volait autant sur le parquet, il a mis 30 points en première mi-temps, il était je crois à 25 très tôt dans le match, voire à la fin du premier quart-temps, enfin la prestation elle est lunaire, genre c'est vrai que de voir un joueur qui peut faire tout ce qu'il veut comme ça, là on se dit, en tout cas moi je me suis dit clairement, parce que on aime ou pas Luka Doncic, on connaît son côté en NBA, les arbitres etc.
Ah même en FIBA hein.
Mais même en FIBA, oui, c'est pareil. D'ailleurs, il y en a plein qui le font. C'est pareil, Alperen Şengün, c'est pareil. Enfin, c'est vrai que des traits de caractère comme ça, des fois, on se dit bon, c'est pénible, quoi. Il va tout le temps râler auprès des arbitres. Mais par contre, il est incroyable, quoi. Je veux dire, il finit le match à 42 points. Ouais. Bon, voilà, s'il veut, il en met 60. Mais c'est surtout les 30 points en première mi-temps. J'étais là, je regardais, je me disais mais c'est pas possible, quoi. Ils peuvent vraiment les Italiens. Pourtant, les Italiens, ils savent défendre, mais ils pouvaient rien faire, quoi. C'était impossible de l'arrêter. C'est pour ça que par rapport à ce duel face à l'Allemagne, qui pour moi l'Allemagne est l'équipe la plus constante de ce début de compétition parce qu'ils n'ont pas perdu un match. Mais
ils ont mis 30 points à tout le monde. Tout
mais
simplement.
Si Luka Doncic te met 60 points dans la tête, ça se trouve que tu peux rien faire, quoi. C'est pour ça. C'est à voir. Je pense que globalement l'Allemagne est favorite pour aller en finale. Je sais pas si ils sont favoris pour gagner le tournoi parce qu'il y a les Turcs qui sont très forts. Là, j'ai regardé le match cet après-midi face à la Pologne. Donc les Turcs ont gagné face à la Pologne et sont qualifiés en demi-finale. Un très gros Alperen Şengün, encore une fois, un très beau collectif. Il y a eu très rapidement dès le début du troisième carton, il y avait 20 points d'avance. Ouais. Derrière, même si la Pologne a cherché à recoller, enfin, je veux dire, les Turcs, ils ont globalement géré leur fin de match. Voilà, c'est un effectif complet avec des joueurs expérimentés. C'est une équipe qui peut aller loin, au moins aller en finale, même si potentiellement, du coup, je sais pas ce que ça fait. D'ailleurs, faudrait regarder parce qu'en ce moment,
c'est la mi-temps.
Il y a la Grèce contre la Lituanie. Je sais pas si t'as
44,
le score.
44-38 pour la Grèce à la mi-temps.
Ouais, avec avec un Giannis Antetokounmpo d'ailleurs qui plante 15 points lui aussi. Donc à voir si c'est la Grèce face à ces Turcs, ça va être un très beau match de basket, je pense, en demi-finale.
Un beau duel à l'intérieur entre Chinkoun et Giannis, ouais, c'est clair.
Et surtout que dans un aspect différent, les deux sont inarrêtables. Oui. Giannis Antetokounmpo, il est très athlétique, il va prendre ses appuis à la ligne des trois points pour aller te claquer ton dunk.
C'est ça.
Chinkoun, c'est pas ça. Chinkoun, c'est le mini Jokic, c'est un peu balèze, ça, mais lui, il va t'enfoncer. Et puis la vision de jeu du gars, c'est pareil, quoi. Il
triple
va
double contre la Pologne. Hein.
Complètement.
C'est le plus jeune joueur à le faire en Eurobasket.
Mais j'allais y venir, et c'est fou. Et moi, ça m'a choqué sur le début de match, c'est le gars. C'est un meneur, mais un meneur genre pur dans le corps d'un big man. Il est monstrueux, la vision de jeu et la capacité à attirer la défense. Puis il est, en fait, c'est bizarre parce qu'il est besogneux, mais par contre, il est hyper agile, il est hyper technique en fait avec la balle.
Tout à fait, exactement comme Nikola Jokic.
Et c'est ça, c'est pareil.
Peut-être un peu plus fort, je veux dire, Nikola Jokic. Mais ouais, Alperen Şengün qui est aussi très impressionnant à voir. Il garde son même style qu'il a en NBA finalement, où avec les Rockets, il a maintenant un peu les clés de cette équipe et il va pouvoir distribuer des caviars à Kevin Durant.
C'est vrai que ça va faire mal, ça. Purée, quand on voit sa compétition, c'est vrai que, enfin, en tout cas, on verra ce qui se passe pour la Turquie. Mais moi, j'ai envie de dire que pour moi, le joueur de la compétition pour l'instant, c'est Alperen Şengün. Je veux dire, il est hyper régulier, il tourne à plus de 20 points tous les matchs, il est quasiment à plus de 10 rebonds tous les matchs, il est quasiment à plus de 7 passes tous les matchs, il fait tout pour la Turquie, et un joueur comme ça, bah, accompagné des Shane Larkin, des Cedi Osman, forcément, ça peut faire que du bien, donc à voir pour la Turquie. Moi, j'avais noté, pour moi, là, à l'heure actuelle, mon 5 de la compétition, tu vas me dire ce que t'en penses, j'avais mis à la main Luka Doncic.
Logique.
Jordan Lloyd au poste d'arrière par rapport à ce qu'il a fait avec la Pologne, et je trouvais ça beau aussi de le mettre parce que les performances au scoring et même son impact en fait juste pour la Pologne, je trouvais ça intéressant. J'ai mis Lauri Markkanen, Giannis Antetokounmpo et Alperen Şengün, ça ce serait mon 5, mais forcément je mets des mentions spéciales, surtout que en gros pour moi, il faudrait limite enlever Jordan Lloyd pour mettre Franz Wagner ou Dennis Schröder, mais en fait j'associe les deux parce qu'ils sont quasiment au même niveau, les deux portent l'Allemagne à eux deux, et donc je privilégie Jordan Lloyd qui est un peu plus surprise de porter la Pologne comme ça. On peut aussi saluer les performances de Denis Avdija avec Israël, Nikola Jokic forcément, Porzingis avec la Lettonie, Pelle Larsson avec la Suède qui a été pas mal, Nemayas Keita avec le Portugal et Sandro Mamukelashvili avec la Géorgie. Mais il y a aussi Tornike Shangalia, comme on l'a dit, Goga Bitadze, des joueurs du coup qu'on n'a pas fini de voir dans cette Euro, et puis on verra bien ce que la fin en tout cas va pouvoir nous proposer. On va continuer de suivre, j'imagine, tous les deux ce qui se passera, même s'il n'y a plus notre équipe de France. Mais je pense que ça peut encore être beau. Et puis là, on va dire, moi, ce qui me ferait personnellement kiffer, c'est une surprise, je sais pas, Finlande-Allemagne. Et puis
moi, je vous en Finlande, mon coup de cœur de...
Bah oui, tu l'avais déjà dit.
Je vois Lauri Markkanen et aussi le jeune...
il est hyper athlétique, mais oui, son nom, je le retiens pas non plus.
Il y a beaucoup trop de voyelles à la suite.
Mais attends, on va retrouver ça. Mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant, hein, les qualités athlétiques du bonhomme.
C'est Mika Murinen.
Oui.
Voilà, ouais, où il y a eu des images de ses dunks, là, avec les pieds et les mains qui partent dans tous les sens, c'est magnifique.
Ouais,
on verra ce que ça va donner demain à 16h contre la Géorgie. Finlande-Géorgie demain à 16h et Allemagne-Slovénie à 20h pour savoir quelles seront nos demi-finales de l'Eurobasket. On va s'arrêter sur ça, il est 20h59. On est pile dans les temps. On va vous souhaiter une bonne soirée et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine sur le 101.5 FM de Radio G.
Votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un autre regard. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle saison et de commencer cette rentrée avec un thème qui nous concerne tous, directement ou indirectement, l'école. Mais bien sûr, comme toujours, nous allons l'aborder sous un angle un peu différent. Parce que la rentrée, ce n'est pas qu'un simple retour en classe, ce n'est pas que seulement les cartables flambant neufs, les cahiers encore vierges et les plannings à réorganiser. Non, la rentrée, c'est avant tout un moment de transition, de renouveau, de rituel. Et qui dit rituel dit symbolique, dit aussi superstition et parfois hantise. Alors ce soir, je vous propose de voyager ensemble en trois étapes. D'abord, nous allons plonger dans la symbolique de la rentrée. Un cycle qui se ferme et un autre qui s'ouvre en écho avec de nombreux rituels spirituels à travers l'histoire. Ensuite, nous explorerons les superstitions et les petits rituels des étudiants, du porte-bonheur glissé dans la poche aux traditions plus anciennes qui encore aujourd'hui rassurent ceux qui doivent passer un examen. Enfin, nous basculerons dans une atmosphère plus sombre avec les histoires d'écoles et de pensionnats hantés, où les murs semblent parfois garder l'écho des générations passées. Alors, ouvrez vos cahiers imaginaires, laissez vos stylos gratter les marges du mystère et prenez avec moi un autre regard.
Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G.
Chaque mois de septembre, la même scène se répète. Les cours reprennent, les enfants retrouvent leurs camarades, les parents soupirent entre soulagement et nostalgie. Et même pour ceux qui ne vont plus à l'école, cette période garde tout de même une forte résonance. Pourquoi ? Parce que la rentrée scolaire est plus qu'une simple date administrative. C'est un rite de passage collectif. Déjà, dans l'Antiquité, le calendrier romain plaçait le mois de septembre sous le signe de Saturne, dieu du temps et des cycles. C'était une période de transition, celle où on se préparait à récolter les fruits de l'année. Or, la rentrée, n'est-ce pas justement cela ? Après la légèreté estivale, on entre dans une phase d'effort, d'apprentissage, de travail. On pourrait même dire que la rentrée, c'est notre équinoxe personnel, un moment d'équilibre entre ce qui a été vécu et ce qui reste à accomplir. Dans les traditions spirituelles, les passages importants sont toujours marqués par des rituels. Dans certaines cultures amérindiennes, l'entrée dans l'adolescence est ponctuée de cérémonies où l'on apprend les savoirs ancestraux. Dans l'Antiquité grecque, les mystères d'Éleusis marquaient la fin d'un cycle et la promesse d'un renouveau spirituel. Et même dans le christianisme, la rentrée scolaire était autrefois bénie par des prières afin de protéger les élèves et d'ouvrir symboliquement une nouvelle année de savoir et d'apprentissage. La rentrée peut donc être comparée à une initiation annuelle. Chaque élève franchit un seuil, monte une marche de plus sur l'échelle de l'apprentissage. Il y a cette image universelle de la page blanche. Un cahier neuf, c'est comme une vie qu'on réinvente. La magie des premiers mots inscrits, l'odeur des fournitures et de l'encre, tout cela résonne avec l'idée de purification. Dans les traditions païennes, avant de commencer un cycle magique, on efface, on purifie, on nettoie. La rentrée, c'est exactement cela. On efface l'ardoise pour recommencer à écrire son histoire. Et comme tout passage important, cette transition est chargée d'émotions, mais aussi parfois de craintes. Et qui dit crainte dit souvent superstition. Les superstitions étudiantes, on en rit parfois, mais elles sont universelles. Parce qu'au moment de passer un examen face à l'inconnu, chacun cherche une façon d'attirer la chance. En France, beaucoup d'élèves gardent un stylo porte-bonheur, parfois le même depuis le collège. Certains ont des rituels précis écrire une petite phrase au début de la copie, s'habiller d'une telle manière ou encore poser la trousse d'une façon identique à chaque épreuve. Dans d'autres pays, ces rituels prennent des formes assez étonnantes. Alors, par exemple, au Japon, et dans les temples shintoïstes vendent des omamori, de petites amulettes spécialement dédiées à la réussite scolaire. Elles sont offertes par les familles aux enfants avant les grands examens. En Corée, il existe une croyance amusante. Ne pas manger de plats glissants avant un examen, comme les nouilles, de peur que le savoir ne s'échappe. À l'inverse, on recommande des aliments collants, comme le riz gluant qui est censé faire coller les faits à la mémoire. Dans les pays latins, certains étudiants portent des talismans transmis par leurs grands-parents, souvent associés à la protection contre le mauvais œil. Alors, ces gestes anodins ont pourtant une force, car au-delà de la croyance, ils servent quand même à canaliser l'angoisse. C'est le principe d'un rituel psychologique. On donne à l'esprit un cadre rassurant, une impression de contrôle dans une situation incertaine. Les sportifs font la même chose. Certains footballeurs mettent toujours la même chaussette en premier, d'autres touchent le sol avant d'entrer sur le terrain, certains golfeurs utilisent toujours la même balle ou portent la même paire de chaussettes. Les étudiants, eux, touchent leurs amulettes et surfeurs leurs stylos fétiches. Alors ces superstitions, elles existent, on l'a dit tout à l'heure, depuis des siècles. Hein, déjà au Moyen-Âge, les étudiants en théologie d'Oxford récitaient des prières à Saint-Joseph de Cupertino, qui est le saint patron des examens difficiles, qui lui-même était réputé avoir passé avec succès un examen oral par un miracle divin. Alors, mais si certains cherchent protection dans des gestes rassurants, d'autres lieux scolaires semblent, on va dire, chargés d'énergie, quelquefois bien plus inquiétantes. Alors, avant d'entamer cela, je vous propose de faire une petite pause. Avec un morceau musical, je vous propose Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Dark sarcasm in the classroom.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors depuis toujours, les écoles, je le disais tout à l'heure, sont le théâtre des récits de fantômes. Peut-être parce qu'elles concernent des souvenirs intenses, des rires bien sûr, des pleurs, la discipline et parfois même des drames et des traumatismes. Alors en France, certains anciens pensionnats ont une réputation assez étrange. On raconte qu'au lycée de Montmorency, des élèves auraient aperçu des silhouettes dans les couloirs, alors que l'établissement était désert. Des professeurs parlent de salles où la température chute brutalement, comme si une présence invisible les observait. Et on peut citer d'autres exemples. Alors, un des cas les plus documentés depuis les années 1950 sont des phénomènes étranges rapportés à la Pocatello High School, donc ça c'est dans l'Idaho aux États-Unis. Alors on rapporte des voix, des présences et même des enregistrements de PVE, donc ce qu'on appelle des phénomènes de voix électroniques, assez surprenants. En 2014, les caméras de surveillance ont capturé une apparition dans un couloir, accompagnée de perturbations électriques anormales. Et en 2019, c'est l'émission Ghost Hunters qui a mené une enquête sur place. Ils notaient des baisses de tension inexplicables et ils avaient pu enregistrer plusieurs voix électroniques, donc dans les fameux EVP ou PVE, suivant si vous le prenez à l'anglaise ou à la française. Mais les autres régions d'Amérique ne sont pas en reste, puisque dans l'Illinois, c'est The Old Milton Elementary School qui est du coup supposé hanté. Il y a un sombre passé qui marque cette école qui est aujourd'hui désaffectée. Donc dans les années 1930, un employé aurait tué un élève s'appelant Mary qui se serait ensuite suicidé dans les locaux. Eh bien, des témoins d'aujourd'hui parlent de silhouettes, de bruits inexplicables et de sensations fortes. Le site a même été le cadre d'une enquête des Ghost Hunters, là aussi, en 2010. Et puis, à l'autre bout du monde, si on prend Nouvelle-Zélande, il y a une situation qui est particulièrement troublante avec le Turakina Maori Girls College. Donc, en 2015, deux élèves pensionnaires ont fui l'établissement, affirmant avoir été menacés par l'apparition d'un homme en cape noire. Le personnel, bien sûr, a d'abord nié l'existence de ce phénomène. Un ancien élève a relaté qu'une tasse se déplaçait seule et une apparition a été vue dans les escaliers, incitant les autorités à faire appel à un prêtre pour bénir les lieux. L'école a fermé en 2016 pour des raisons financières, mais les histoires de fantômes y restent vivaces. Et puis quand on pense au pensionnat, on pense bien sûr à l'Angleterre, qui est un fleuron de bon nombre d'écoles privées, au pensionnat Broadstairs. Donc c'est un pensionnat qui a littéralement inspiré un écrivain, donc l'auteur Dennis Whitley. Et lui, il était élève de ce pensionnat dans le Kent. Il aurait vu un visage enflé et blême dans l'établissement. Il l'avait d'abord confondu avec un cambrioleur, avant de découvrir qu'il s'agissait, selon la légende, d'un élémental qui avait été invoqué par accident. En Afrique du Sud, c'est St. Catherine's School à Germantown qui du coup est réputée hantée. Donc en 72, il y a un concierge qui aurait été poursuivi dans le hall par un spectre gris aux yeux rouges qui était en train de hanter tranquillement l'école. En 77, les témoins évoquent systématiquement une silhouette encapuchonnée dans plusieurs lieux du bâtiment, la chapelle, le sous-sol, les salles de classe. Ce fantôme a été surnommé Patrick du nom d'une des maisons de l'école. Si on retourne du côté de l'Asie, on a la SKM Pengkalan Chempa, qui est une école en Malaisie. Donc c'est un cas qui a été repris par la BBC en 2016. Plus d'une centaine de personnes ont signalé des apparitions spectrales et des phénomènes hallucinatoires dans cette école. Certains ont raconté avoir ressenti des entités tentant de posséder des élèves ou de les désorienter. Alors face à ces témoignages massifs, l'école a été temporairement fermée et des exorcistes ont été appelés. Alors ça, vous me direz, c'est au bout du monde, mais en France, eh ben en France, on a le lycée Henri IV à Paris, hein, qui est un lycée assez sélect. Plusieurs témoignages d'anciens élèves évoquent des bruits étranges dans les couloirs et surtout dans les caves médiévales. Hein, c'est l'ancienne partie du couvent Sainte-Geneviève. Il y a des associations de passionnés d'histoire urbaine qui y rapportent des ombres et des sensations de présence intense. Plus près de nous, on a l'ancien internat du Prytanée militaire de la Flèche, donc là on est dans la Sarthe. C'est un lieu bien sûr chargé d'histoire, hein. C'est un ancien collège jésuite fondé par Henri IV, où certains élèves racontent avoir entendu des pas, des chuchotements ou vu des silhouettes dans les dortoirs. Alors c'est des légendes locales évoquent des revenants liés justement à ces anciens prêtres jésuites. À Paris, on a aussi le lycée Chaptal. Donc, dans les années 80, là, il y avait des rumeurs qui couraient, qui étaient persistantes d'apparitions dans certaines salles qui étaient désaffectées du bâtiment. L'école, le lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Donc, certains élèves rapportent des bruits ou des ressentis étranges en soirée d'études. Hein, c'est des faits qui sont souvent relayés dans des forums d'anciens élèves. Le lycée Montaigne n'est pas à Paris, n'est pas au reste non plus. Là, on a des rumeurs de phénomènes étranges qui seraient liés à l'ancien couvent qui était construit sur le site. Le lycée Saint-Charles de Marseille, on a plusieurs témoignages d'enseignants et d'élèves qui parlent de bruits de pas et d'apparitions. Et puis, on a l'école de Beaux-Arts de Nantes. Hein, donc, lui, fait dans l'ancien couvent des visitandines avant son déménagement. Donc là, on a des rapports de bruits, de portes qui claquent et des récits d'apparitions de religieuses dans les couloirs. Et le média en ligne Kita, qui est un spécialiste vidéo, a publié une vidéo racontant qu'une équipe nommée Lille Recherche Paranormale a enquêté dans une école de la région lilloise après des témoignages évoquant des cris d'enfants et des bruits de pas depuis plus de 40 ans. Et si vous avez envie de voir à quoi ressemble l'atmosphère d'un pensionnat abandonné hanté, je vous propose nos fameux chasseurs de fantômes français, l'équipe RIP. Dans leur quatrième saison, épisode 11, qui s'appelle L'ancien pensionnat, vous plongerez dans une enquête oppressante au cœur d'un ancien pensionnat isolé en pleine campagne. Alors ce lieu qui est chargé d'histoire et de souffrance, hein, puisqu'il a successivement accueilli des enfants atteints de tuberculose dans le préventarium, mais aussi des orphelins déportés pendant la guerre, avant de redevenir un internat où le pire serait arrivé. Alors désormais abandonné, il est enveloppé dans le silence, et bien il serait hanté, selon des témoignages anonymes d'anciens pensionnaires, par des bruits mystérieux, des ressentis étranges et des secrets certainement qui ont été trop longtemps tus. RIP est resté là-bas pendant 72 heures. Ils ont mené une investigation nocturne. Ils ont confronté l'histoire du lieu aux phénomènes inexpliqués. Et il faut bien dire que, on reste un petit peu accroché parce que l'atmosphère y est particulièrement troublante. C'est un peu un voyage hors du temps où le passé et le présent se chevauchent. Alors ça, vous pouvez le trouver, il passe régulièrement sur la chaîne Planète Plus AEI, mais vous pouvez également certainement le trouver sur YouTube pour ceux qui ont envie de se faire une petite idée. Alors là, on a trouvé plein d'exemples d'écoles hantées ou de pensionnats hantés, mais il y en a encore, il y en a 10 000. Alors, mais pourquoi est-ce qu'effectivement les écoles attirent autant les hantises? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fantômes? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'affaires qui touchent des écoles, des orphelinats, des pensionnats? Eh bien, avant de répondre à cette question, je vous propose une petite pause musicale.
Making all the
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors, comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que les écoles attirent les hantises selon les témoignages concrets? Eh bien, d'abord parce que c'est un lieu de mémoire collective. Des générations d'élèves et d'enseignants ont traversé ces lieux, parfois chargés d'émotions fortes, de stress, de souffrance ou à l'inverse de joie, comme des empreintes invisibles. Ensuite, parce qu'elles concentrent des émotions qui sont fortes, la peur, l'excitation, la solitude, parfois l'humiliation. Autant d'énergie qui, selon certaines croyances, imprègne littéralement les murs. Ce sont également des lieux d'histoire tragique. Incendies, maladies, accidents, guerres, certaines écoles ont connu de véritables drames collectifs. Souvent à la campagne, à l'écart des ces internats en fait sont propices aux récits d'apparitions, puisqu'effectivement il y a un effet psychologique un petit peu d'isolement. Tellement l'architecture ancienne et l'atmosphère qui font beaucoup. Ce sont des bâtiments qui sont souvent vieillissants. Les couloirs vides et les dortoirs à l'écho donnent parfois l'impression du vivant, dans ce qui ne l'est plus. C'est-à-dire que le moindre bruit réverbère et on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. Et puis généralement, effectivement, ils sont un peu en décrépitude. Donc vous avez là un côté un petit peu glauque avec la peinture qui s'effrite, les portes qui ferment mal, les vitres cassées. Ça donne une petite, effectivement, atmosphère un petit peu glauque. Il y a certainement un facteur folklore scolaire, c'est-à-dire que chaque établissement, via ses histoires locales qui ont été transmises oralement, embellit ou entretient le mythe, qu'il soit fondé d'ailleurs ou pas. Pourquoi est-ce que les écoles seraient-elles si souvent liées aux fantômes? Eh bien, il y a des hypothèses dans le monde paranormal qui circulent. Alors, ces lieux sont très particuliers, ils sont souvent anciens, habités par des centaines d'élèves au fil du temps. Ils deviennent des vrais réceptacles de mémoire, de charges émotionnelles et parfois de drames, comme vous voyez tout à l'heure. Alors voici les principales pistes qu'on retrouve chez les enquêteurs, les chercheurs en parapsychologie ou dans le folklore qui nous expliquerait ce lien entre fantômes et école. Alors déjà, il y a l'hypothèse de la mémoire résiduelle. Alors le principe, c'est que le lieu, il enregistre les émotions fortes, donc les peurs, la douleur, la joie, l'humiliation, les morts tragiques, et ces énergies se rejoueraient comme un film ou comme une bande magnétique à certains moments. On dit que certains matériaux sont absorbants, comme le pierre, la bois, la brique, surtout anciens, elles sont considérées comme des supports qui emmagasineraient cette énergie émotionnelle. Si on voit un exemple, une scène de violence dans un dortoir qui serait répétée des dizaines de fois laisserait, si vous voulez, une genre d'empreinte. Les émotions intenses seraient comme des ondes qui imprègnent l'environnement. Plus elles sont fortes, plus elles auraient de chances de marquer le lieu. Alors, ces enregistrements se manifesteraient parfois suite à des conditions précises qu'on a fait avec des déclencheurs. Donc ça pourrait être lié à la météo, l'orage, l'humidité, au cycle lunaire, à la présence d'individus sensibles, mais aussi, pourquoi pas, à des dates anniversaires, par exemple. Alors, comment se manifeste la mémoire des murs? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas des fantômes qui sont conscients, mais plutôt des scènes figées qui se rejouent. Alors là, c'est plutôt ce qu'on a en manifestation typique, on a les bruits de pas, les rires d'enfants, des cours entendus dans des classes vides, des scènes figées, des portes qui claquent, des choses comme ça. Et quand on a une apparition, en général qui ne réagit pas au vivant. C'est-à-dire, elle est toujours dans le même train-train, la boucle se diffuse, quand on est arrivé au bout, ça se termine, pouf, disparition, il ne se passe plus rien, et la scène se rejoue comme ça de temps en temps, à l'infini. Alors, il pourrait également avoir des esprits de défunts. Donc l'idée centrale, c'est que certains enfants, des enseignants ou des religieux n'auraient pas quitté le lieu après leur mort, alors, soit par attachement, soit parce qu'ils seraient coincés. Alors les raisons possibles, pourquoi est-ce qu'ils seraient coincés? Alors déjà, ça peut être du fait de leur mort, qui pourrait être brutale. Donc là, on parle d'accidents, d'épidémies, d'incendies, de maltraitance. Ça peut être aussi un sentiment d'injustice ou d'inachevé. Il a encore des choses à faire, ou il avait planqué quelque chose. Il avait, voilà. Une mauvaise compréhension du décès. C'est-à-dire que le défunt n'a pas compris qu'il était décédé. Parce que c'était, voilà, trop rapide, trop brutal. Il est un peu en déni, si vous voulez. Il y a certainement la peur de passer de l'autre côté, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, et ou ça peut être aussi également un refus de quitter les vivants, parce qu'on n'a pas envie de laisser sa famille tout seul. Et puis, si on reste sur place, c'est certainement qu'on a un lien affectif fort avec le lieu. Un pensionnat peut un peu devenir comme une genre de maison, c'est effectivement ce qu'on y passe un bon nombre d'années. Alors, les signes de la présence d'un défunt, on va dire conscient, alors c'est des interactions qui sont plus directes. Il y a un dialogue dans les séances de TCI, donc de transcommunication instrumentale, dans les enregistrements. C'est-à-dire, les enregistrements répondent à des questions. On a des silhouettes qui semblent conscientes. Donc, on parle par exemple de regards échangés. Il y a une réaction aux enquêteurs. Par exemple, quand on leur demande s'ils veulent qu'on parte, ils peuvent claquer les portes, par exemple. La troisième piste, ce serait la piste du poltergeist, qui est liée aux adolescents. Donc, c'est une théorie qui est psychokinétique. Alors, l'énergie psychique, souvent inconsciente de certains adolescents en crise émotionnelle, pourrait provoquer des phénomènes, comme des mouvements d'objets, des coups, des bruits. Alors, pourquoi les écoles et les pensionnats? Parce qu'il y a une concentration d'adolescents pleine puberté, et c'est donc un terrain fertile pour avoir des embrouilles et pour effectivement avoir du mal à stabiliser ses émotions. En phénomène typique, on peut avoir des objets qui se déplacent sans cause apparente, des craquements, des portes qui claquent, mais sans réel fantôme, si on peut dire, visible. Alors c'est une hypothèse qui est très étudiée dans le cas moderne de phénomènes scolaires. Une quatrième hypothèse qu'on a pu évoquer, ce sont des failles spatio-temporelles. C'est une hypothèse qui est plus rare et un peu plus ésotérique. C'est-à-dire certains bâtiments anciens pourraient être situés dans des points énergétiques. Alors là, on pense à des croisements telluriques, à des lignes de lait. Alors dans ce cas-là, les élèves ou les visiteurs auraient accès à des visions du passé. Un peu comme si les murs, finalement, s'ouvraient sur un autre temps de temps en temps. Alors certains témoignages de cours donnés par des professeurs disparus depuis des décennies sont parfois interprétés ainsi. Il y a également, cinquièmement, une hypothèse psychologique et sociologique. Déjà, il y a le pouvoir de l'autosuggestion. Le cadre, je rappelle, les internats sont souvent isolés, des anciens dortoirs, dans une ambiance qui est un petit peu gothique. C'est un peu sombre, on est seul sans les parents, nourrit réellement l'imaginaire. Et puis, il y a toutes ces histoires, et il y a également toutes ces histoires qui circulent. Les légendes urbaines entre élèves amplifient les perceptions. Et il y a également un stress collectif. Les nuits en groupe, la peur, les privations, les phénomènes sont vécus comme paranormaux alors qu'ils relèvent tout simplement de la psyché. Et en sixièmement, on peut citer également, donc si c'est pas du résiduel, si c'est pas un défunt, ça pourrait être un genre de mixte, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Donc là, on est sur un concept à plus ésotérique. On dit que l'accumulation de pensées et d'émotions collectives finit par former une entité autonome. Donc dans un lieu chargé émotionnellement, ça marche d'ailleurs pas que pour les écoles, dans les internats, les hôpitaux, les prisons, l'accumulation d'énergie psychique pourrait donner naissance à une entité collective réelle. Alors cette entité, au départ, c'est une simple résonance, elle finirait par s'animer et réagir. Donc, par exemple, dans un pensionnat, les peurs des élèves répétées sur des générations pourraient avoir créé une présence qui prend vie et qui est menaçante. Alors, ce type d'égrégore, de construction mentale, expliquerait pourquoi certains lieux semblent hantés même sans événements dramatiques identifiés. Le fait que des générations d'élèves aient pensé que ce lieu était hanté et pensé qu'il y ait un fantôme menaçant, un monstre qui rôde dans la chaufferie, ferait effectivement que cette chose prendrait vie. Alors au final, les écoles et les pensionnats sont un terrain où toutes ces hypothèses peuvent s'entrecroiser. Certains phénomènes, bien sûr, sont purement psychologiques, d'autres relèvent du résiduel énergétique, et dans certains cas plus rares, ça pourrait être attribué à des esprits conscients, ou même à des égrégores collectifs. Alors, je vous propose une dernière pause musicale avec Chelsea Wolfe, Feral Love.